Bonjour à tous, bienvenue sur Direct en Jeu. Nous sommes aujourd'hui au château Braché, près de Aix-les-Bains, avec Élodie Lee. Élodie Lee qui est l'heureuse chef de ce très joli hôtel-restaurant 5 étoiles. Élodie, enchantée.
Enchantée, Chloé.
Alors, Élodie, vous êtes ici depuis combien de temps ou combien de mois? Vous êtes ici fraîchement, toute neuve, je ne sais plus. Dites-moi tout.
Oui, alors j'ai été débauchée en mai. Par contre, j'ai repris la cuisine le 2 octobre. Alors, il y a 2 mois pile, quasiment.
Et vous êtes déjà comme un poisson dans l'eau. Oui. Vous maîtrisez bien tout l'espace, toute l'équipe, voilà. Et comment, j'allais dire à vos ordres, mais bon. Faut peut-être pas dire ça comme ça, mais on en parlait juste avant. Vous aimez quand c'est organisé.
Oui, oui, oui. Après, j'essaye de vraiment faire un projet où tout le monde a quelque chose à apprendre. Tout le monde a un petit plaisir là-dedans.
Bien sûr.
Alors, en fait, les ordres, j'ai pas vraiment à les donner très souvent parce que j'ai trouvé des belles personnes, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Vous parliez peut-être effectivement comment on tenait une cuisine à l'époque, que parfois, maintenant, aujourd'hui, dans les cuisines, c'est un peu différent, que vous aimiez effectivement la rigueur. Peut-être la brigade d'antan,
hein.
Et puis l'organisation, que tout soit bien carré, et parce que du coup, tout se passe quand même beaucoup mieux aussi, malgré le fait que quand même, ça laisse aussi la place à la créativité, que vous avez beaucoup en vous, justement, beaucoup de féminité également, et le sujet aussi qu'on a évoqué ensemble juste avant, c'est justement le côté une femme qui est chef. Aujourd'hui, est-ce qu'on rencontre beaucoup de femmes chefs?
Alors moi, personnellement, comme je vous ai dit, moi, j'ai jamais travaillé avec une femme en cuisine dans toutes les équipes. Je pense que ça se fait de plus en plus, ce qui fait vraiment plaisir. Parce que quand j'y repense, au fait, récemment, j'avais fait un concours, le concours de Vaudieu, par rapport à Dimitri, d'ailleurs. J'ai remplacé quelqu'un au dernier moment. Et au fait, on était 3 femmes. Et c'était pas choisi comme ça, c'était par inadvertance. Alors, ça m'avait fait plaisir de voir ça. Parce que moi, dans mon parcours, j'ai que travaillé avec des hommes. Même des pâtissières, etc. Non, j'ai fait une passation de 2 semaines. Et c'était le maximum que j'avais travaillé avec une autre femme dans les 9 ans maintenant que je suis dans le métier. Alors, je sais que ça se voit. Il y a les grandes, bien sûr. Il y a Dominique Crène, Anne-Sophie Pic. Enfin, il y a de quoi s'inspirer. Hein. Ça, j'ai la chance. Mais je ne le vois pas encore autant sur le terrain. En Savoie, j'ai rencontré beaucoup des chefs des alentours. J'ai encore à rencontrer une femme chef. Ouais, pas encore, ici.
Ouais, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Et donc, vous avez 29 ou 30 ans, et vous avez commencé donc il y a 9 ans, à 20 ans, ce qui est quand même assez tôt. Et malgré tout, vous me disiez, vous avez fait quand même d'autres études auparavant, donc de finance.
Oui.
Vous vouliez faire comme votre papa, donc plutôt aller dans le business, dans des grandes sociétés. Et finalement, donc, qu'est-ce qui a fait que la cuisine vous a attiré?
Elle ne m'a pas vraiment attirée autant que j'ai eu une période après que j'ai arrêté mes études, que j'ai voyagé un petit peu, j'avais besoin de mettre mes idées en ordre, comme beaucoup de personnes, je pense, à cet âge-là. Et ce n'est pas vraiment qu'elle m'a attirée, c'est que j'avais toujours aimé la cuisine, j'avais beaucoup voyagé. J'adore les cultures différentes, du street food à 3 Mac, partout au monde. Par contre, c'était plus... j'ai tombé dedans par inadvertance. Il y avait un restaurant qui m'avait plu, j'ai postulé comme ça. Et c'était avant la cuisine elle-même, c'était plus juste l'énergie. Ce qu'on disait tout à l'heure, cette énergie de vouloir bien faire. Ce côté militaire d'ailleurs, que je pense qu'on a besoin à cet âge-là quand on se sent des fois un peu perdu. Du coup, en fait, moi, ça m'a un peu donné un sens, un peu de conviction envers moi-même. Et j'avais l'impression d'avoir à nouveau quelque chose à suivre, au fait. Et derrière, ben oui, les produits, tout ce qui était dressage. La première fois que j'ai utilisé un thermomix, c'est un truc tout bête. Mais je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable. Ou un siphon, c'est des trucs bêtes. Mais derrière, je me suis accrochée au côté vraiment cuisine, tournement. Mais au début, c'était l'énergie. Je rentre dedans, il y a ce chaos total. Et je vois juste mon chef, et il est tellement calme. Et je n'avais pas encore compris que c'était son rôle de prendre le chaos et le maîtriser dans quelque chose qui est juste tout comme il faut, épuré, etc. Mais cette énergie-là, elle est... Soit on tombe fou amoureux, soit on se dit, c'est pas du tout pour moi, je pense. Ça, c'est ma philosophie. Et pour moi, j'avais tombé fou amoureuse de cette énergie-là, de voir les mecs qui étaient tous ensemble, en train de se battre pour sortir un service ensemble, peu importe ce qui arrivait. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est très spécial. Mais maintenant, en 2024, n'y a pas beaucoup de métiers qui fonctionnent encore pareil que fonctionnaient à l'ancienne. Un peu de changement, mais enfin, l'hiérarchie reste pareille. Les tâches, elles sont réparties pareilles. Une cuisine, une journée de cuisine, elle arrive pareil. L'arrivage des produits, le crescendo qui arrive derrière. Enfin, il y a quelque chose un peu... Il y a une certaine fierté dans la tradition, je trouve, et spécialement en France. Vous êtes connu pour ça, quand même. C'est pour ça que je suis venue ici.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, vous avez commencé donc, concrètement votre premier job donc, en tant que chef, ou bien quel est le... Avant d'être chef, vous étiez à quel poste en cuisine ?
Alors, j'ai commencé comme commis, bien sûr, en Amérique, à Volterra, pour un chef sicilien. Et j'avais monté les grades plutôt vite. Il était top. J'avais super faim à apprendre. Je savais que j'étais à la bourre, comparé aux autres cuisiniers qui avaient quand même commencé vers les 15-16 ans, spécialement en France, ici, où vous avez l'internat.
Et vous avez commencé donc vraiment à 20 ans ou bien est-ce que...
J'ai eu mes 21 ans, j'étais déjà en cuisine, mais à peine.
Ok, mais il y a combien de temps de formation ?
Alors, j'ai fait 2 ans aux States, après j'ai venu en France, j'ai commencé à côté cours. Ils m'ont fait recommencer comme commis. Et j'ai vite monté en grade à nouveau à chef de partie. Et puis, j'ai resté là-bas 1 an et demi, je pense. Un an et demi. Après, j'ai basculé chez Michel Féval, un étoile dans le centre d'Aix-en-Provence, où j'avais fait plusieurs postes différents. J'avais fini en pâtisserie, d'ailleurs. C'était ma première formation un peu en pâtisserie, parce que la chef pâtissière, dont ma passation, elle avait tombé enceinte juste avant que j'arrive. Et du coup, j'ai repris son poste, on va dire, temporairement. Mm-hmm. Après, j'ai rejoint l'équipe de Christophe Cavola, le chef au Massillon, à Château de Massillon à l'époque, qui était à Uchaud, pour la recherche de l'étoile. C'était vraiment tout top. Après, j'ai retourné aux States parce que le Covid, ça commençait à être bancal avec les projets, les refermetures. Mm-hmm. Et j'ai pris ma première poste de chef officiellement, qui était à Beja, pour un vignoble. Et c'était expérimental, ça s'était super bien passé. Et après 1 an, quand j'étais censée renouveler mon contrat, je voulais retourner en France parce que tout s'était calmé. Ça s'était trop bien passé, mais enfin, les produits et tout. Et puis après, j'ai fait quelques passations, quelques saisons avant que je trouve un endroit où je voulais rester, dont la Flibuste, juste avant Nice, dont Maison de Bacon. J'ai fait la saison pour Nicolas Davouze, Philippe Johannes. Après, j'étais la chef de cuisine à la Maison Française, à Aix-en-Provence, pendant 2 ans, pour Lila Herman. Adoré ce projet-là. Adoré ma patronne. Ça s'est super bien passé. C'est mon second maintenant qui est chef là-bas. Enfin, l'équipe a juste monté en grade quand je suis partie. Du coup, ça s'est fait, mais très jolie histoire, je trouve.
Et comment vous avez atterri ici, alors ?
Alors, c'est l'attaché de presse qui m'a mis en relation avec M. Belin, le patron.
D'accord.
Et ils ont descendu faire mon entretien dans le sud. Et je voulais qu'on le fasse, au fait, à la Maison Française. Pour qu'au lieu de juste avoir à exprimer certaines choses, qu'on déjeune tous ensemble et ils voient l'équipe de salle, l'équipe de cuisine, qu'ils goûtent un peu ce que mon second fait et qu'ils voient un peu le concept et peut-être l'énergie que j'avais mis les 2 dernières années. Et comme ça, j'aurais moins peut-être à expliquer certaines choses. Et juste en déjeunant ensemble, en rencontrant mes équipes, tout le monde est sorti, leur serrer la main. C'était cool. Ma patronne aussi. Du coup, leur faire une lettre de recommandation. Ils ont juste bu un café ensemble, parlé de moi, enfin, de plein de choses.
Et donc, votre patronne donc, de cet établissement-là était d'accord pour que vous partiez, du coup ?
Oui, elle était...
Comment ça se fait, ça, dans ce
cas-là ? Avec le cœur super lourd, déjà, parce que c'était tout, il n'y avait pas de
rien à part. On s'attache quand même, évidemment.
Énormément. Déjà, j'avais mis un énorme préavis quand même. Il y avait, je pense, c'était 4-5 mois de préavis quand même, parce que je l'appréciais énormément. Et en fait, il y avait un moment qui était très mignon parce que elle m'a regardé avec un petit sourire un peu triste. Elle m'a dit ouais, Mélodie, tu sais, moi, quand je t'ai rencontrée, je savais que je n'allais pas pouvoir te garder pour très longtemps, que tu avais besoin de monter en crescendo pour toi-même. Mais par contre, voilà, je tiens à cœur les 2 dernières années. Et moi, c'est vraiment, c'est pareil, quoi. Il n'y avait rien qui m'a fait partir, à part le fait qu'il me fallait quelque chose un peu plus grand, peut-être. Un plus gros challenge. Mm-hmm. J'avais fait ce que j'avais à faire là-bas.
Bien sûr.
J'ai laissé l'équipe, le tout que je pouvais, le plus nickel que je pouvais, bien. Et du coup, j'arrive ici... on me sentir vraiment bien, quoi, pour rafraîchir après l'été, prête à reprendre, voilà.
Tout à fait. Alors, quand vous êtes arrivée ici, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau au niveau de la cuisine ? Est-ce que vous avez apporté des plats qu'on appelle, entre guillemets, des plats signatures qui vous sont assez propres à vous ? Aujourd'hui, ce qu'on a par exemple mangé ce soir, est-ce que c'est quelque chose qui reste à la carte pendant quelques temps ou est-ce que vous changez quasiment tous les soirs? Vous faites avec les produits que vous avez entre guillemets sous la main grâce au potager notamment ou aux producteurs locaux selon à ce qu'ils vous fournissent?
Alors là, avec les fêtes, celle-là, je vais la garder jusqu'à la fin de l'année, ce qui est plutôt rare. Après, je change ma carte énormément. J'ai besoin de jouer. Et d'avoir l'espace de me dire et si je fais ci, et si je fais ça, et c'est là où je suis la plus heureuse. Parce que après, plat signature, j'en ai pas vraiment, je dirais, parce que je suis trop jeune. Si j'en avais une, parce que c'est celui que... J'aime pas redoubler les mêmes assiettes, jamais. Par contre, je travaille le crabe depuis un moment, parce que je viens de Seattle, et pour nous, bah, c'est les meilleurs crabes. Enfin, ça descend de... d'Alaska, j'ai l'habitude de décortiquer depuis que je suis toute petite. Alors pour moi, c'est nostalgique. Et j'ai une assiette là qui est la chamouchi avec la bergamote, avec les chairs de pince, les œufs de truite, le petit beurre de carapace.
Ça serait bon.
Et ça paraît tout simple, mais c'est
avec donc la sauce béchamel. Là. Ouais, excellent.
Et elle a l'air complètement simple, mais c'est, déjà, c'est du zéro déchet. Je prends des femelles spécifiquement parce que la corail, elle apporte cette légère sucrosité. Je ne sais pas si vous l'avez capté, mais elle est légèrement sucrée, la chamouchi. Elle n'est pas trop... on ne sent pas un dashi soja, au fait. Elle est crémeuse. C'est fait avec tout le corps du crabe. Toutes les carapaces finissent en le beurre. Alors, ce zéro déchet qui est très identique, par contre, ça, c'est identique de ma cuisine. Il n'y a rien qui part à la poubelle. Ça, je dirais que peut-être si j'en avais une, ça serait celle-là, parce que je trouve que c'est celui que peut-être on me demande de montrer ou d'en parler le plus. Il y a aussi une liaison avec chez moi. J'aime bien ce côté de faire... Bon, chamouchi, c'est pas chinois, hein, c'est japonais. Mais ce côté hollandaise, ce côté franco-asiatique, et en même temps zéro déchet. Voilà, je pense que peut-être un jour, quand j'ai plus d'expérience, quand les gens me demandent une place signature ou la signature de ma cuisine, ça sera peut-être quelque chose qui est proche de ça. Mais je suis encore en train de le trouver, finalement.
Non, non, tout à fait. On l'a trouvé très intéressant et très fort, ce plat-là, justement. Tout comme le bœuf, hein, qu'il y avait juste avant. Excellentissime.
C'est une assiette qui me fait penser à mon papa. Ouais. Cette assiette, elle est pour mon papa. Ouais.
Oui, il y avait un côté un peu, effectivement, asiatique, quand même.
C'est la XO, en fait. La XO qui a le sésame blanc, ce petit condiment par-dessus qui est un peu croustillant, huileuse, qui vient de Hong Kong, au fait.
D'accord.
Quand j'ai goûté le bœuf maturé en rouge pour la première fois, elle avait naturellement ce goût de umami parce qu'elle a maturé 6 semaines. Alors, ça me... comme un sapin grillé. Ou... Et moi, ça m'a fait penser au ramen. C'est pour ça qu'on a la petite œuf de caille, les enoki, les cébettes. Elle est dressée un peu comme ça. Ça paraît très simple, mais moi, c'est parce que le goût, ça me fait penser à un ramen. Et le bouillon d'os, comme les os, elles sont maturées avec la viande aussi. Ah ben, ça fait ce bouillon que je ne sais pas comment... Mais très rond, très umami. Et du coup, le XO, il est là pour apporter un peu de texture déjà, un peu de croquant, mais... C'est un condiment que pour moi, ça me rappelle un peu les soupes de nouilles que mon père me faisait, au fait. J'initiais avec ça un peu.
Mais alors là, typiquement, dans ces deux plats-là, est-ce qu'il y a des choses, voilà, pour avoir tous les ingrédients, comment vous faites? Est-ce que vous allez les chercher un peu plus loin quand même qu'ici dans la région, beaucoup plus loin? Est-ce qu'il y a des ingrédients typiquement qu'on trouve, j'en sais rien, sur le marché asiatique éventuellement?
Oui. Alors, la XO, oui. Après, le bœuf maturé, non, ça c'est Beauvallet, que je travaille avec depuis des années. Je les ai rencontrés au fait à la Maison Française au tout début. Alors, eux, ils ont plein d'élevages, plein d'abattoirs de partout en France. Du coup, je peux travailler du Aubrac ou je peux travailler de l'Aveyron. Ils peuvent me l'amener ici. Après, le tourteau, lui, vient de Bretagne. Elles arrivent vivantes. Chaque mercredi, j'ai deux grosses colis. Elles arrivent vivantes, elles sont magnifiques. Ça vient de Bretagne. J'ai les œufs de truite et les raisins de mer. J'essaie de réfléchir. C'est pas les deux assiettes les plus locaux après. Les petits œufs de caille, oui. Il y en a juste à côté. Ça, c'est le bonheur dans le nid. Les cébettes du potager avant, mais là, ça fait une semaine que le jardinier a fait table rase, du coup, il faut que je les commande. Par contre, j'ai une liste de... J'ai 7 fournisseurs total, dont entretien et produits secs. Alors, j'en ai 5 vraiment alimentation que j'appuie dessus. Et il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de grossiste. La plupart sont au Hall de Chambéry, où j'y vais tous les vendredis matin, du coup, pour aller... Je vais une fois par semaine minimum chercher mes commandes moi-même, pour regarder des nouveaux saisons, pour boire un café avec mes fournisseurs aussi, voir ce qui se passe dans le métier. J'aime bien, j'amène au moins une ou deux personnes de mon équipe pour qu'ils voient les produits. Même mon commis cuisine, il est déjà venu 2-3 fois. Et ça les inspire, ça leur donne une idée de comment monter une assiette. Et c'est là où, on a une assiette qui change chaque semaine, ce qui le déguste, en fait, des vendredis soirs. Et ça, c'est... Je suis toujours aveugle. J'arrive au Hall, je trouve quelque chose qui me plaît, je parle à mon fournisseur. C'est le sucre de la semaine. Et des fois, on fait un petit truc en mode, là, on a dit, c'est quoi qu'on avait bossé, ok, donne-moi un pays. Du coup, on avait tiré l'Ancorné et l'Espagne. Du coup, je pense que demain, on sera peut-être sur un truc autour de l'Ancorné, le chorizo, un peu fun, revisité, mais jusque-là, ça passe crème. Et moi, ça me permet aussi de jouer et de bouger ma carte et d'entraîner les garçons sur des nouveaux produits tout le temps. Et comment est-ce qu'on monte une assiette? Comment est-ce qu'on prend une cagette de choses à la fin de semaine et on dit qu'est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce que je peux rentabiliser, faire quelque chose de plus magnifique avec? Et ça met une bonne énergie, je trouve, en cuisine. Et tout le monde aussi met un peu sa patte, goûte. Ça va évoquer quelque chose de différent pour tout le monde, des fois. Et la conversation, du coup, pour la cuisine et pour la salle, elle est très autour de notre métier. Il n'y a pas de blablabla dans tous les sens. On parle de ce qui nous passionne, la cuisine, le service, qu'est-ce qu'on a envie de faire de plus, spectacle en salle, peu importe. Et ça fait que c'est très sain. Et je veux que les clients ils ressentent ça aussi quand ils mangent ici, qu'il n'y a pas deux équipes, ou il n'y a pas de... C'est rigoureux quand il y a quelque chose à dire, oui, mais que tout le monde en fait partie ici. Il n'y a personne qui est mis à l'écart.
Bien sûr, bien sûr. Vous êtes combien en tout entre la salle et la cuisine? À peu près.
Actuellement, on est 12. Mm-hmm. On sera 17 en 2025. Mm. Inclus le plongeur et tout le monde, moi, tout le monde.
D'accord, d'accord.
Pâtisserie et tout.
Ouais. Et là, par exemple, ce soir, il y avait à peu près, plus ou moins, à peu près autant de monde que ce midi, j'ai l'impression, plus ou moins, mais oui, je me trompe
midi,
peut-être.
Oui. Mercredi, jeudi, ça reste toujours comme ça.
D'accord, d'accord. Et c'est plutôt des locaux, du coup? Là, ce soir, c'est des gens qui restent à l'hôtel?
Alors, il y en a quelques-uns. C'est un peu trop tôt à dire parce que j'ai percuté que le clientèle, il change un petit peu. En fait, on a un nouveau client, on a beaucoup de locaux qui connaissent la maison depuis très longtemps, qui ont été super chouettes avec moi d'ailleurs, parce que c'est une cuisine qui est un peu différente, mais ils sont très ouverts d'esprit, bouche à l'oreille, ça fait plaisir.
Ouais, qu'est-ce qui a beaucoup changé là, entre le moment où vous êtes arrivé et puis avant? Comment, enfin, parce que vous avez sûrement goûté peut-être la cuisine d'avant ou
absolument
non, pas plus que ça. Quel est l'écho que vous aviez eu de la cuisine d'avant, enfin, s'il fallait la définir? Et qu'est-ce que vous avez changé du coup d'un point de vue, voilà, ce qu'on goûte au niveau de l'assiette?
Alors, j'ai pas goûté avant, alors je sais pas. Je sais qu'il y avait des bons retours avant. Ça, je sais que c'était vraiment top. Après, il y a eu plusieurs chefs différents. Moi, j'ai toujours entendu vraiment de très bons retours dessus. Après, quand je suis arrivée, j'ai pas essayé de changer quoi que ce soit. Je pense que quand on reprend ce poste-là, naturellement, si on fait ce qui nous plaît par palais ou une cuisine qui nous ressemble, ah ben, naturellement, ça va changer. Alors, je pense que, et je dis ça aveuglément dans la manière où j'ai pas goûter la cuisine des anciens chefs, mais si j'ai bien compris, je pense que la mienne, elle va être un peu moins dans le traditionnel français, même comparé aux tables aux alentours. Et on a vraiment des très belles aussi, on est hyper gâtés ici. Moi, j'ai toujours du franco-péruvien, du franco-chinois. Il faut que je joue avec des bases françaises et quelque chose d'ailleurs. Un laksa de Singapour, de Kuala Lumpur, peu importe ce que c'est, je vais... genre là j'ai basculé une assiette qui est le maquereau et le foie gras pour le week-end là, avec du sarrasin qui fait un peu le mariage, du coup huileux et pertinent le maquereau, foie gras qui est riche et gourmand français, maquereau on mange beaucoup en Chine là, qui est juste snacké comme ça, et l'assiette ensemble, on était tous en waouh, c'est cool. Et du coup ça, pour moi, quand je fais ça, je trouve que naturellement c'est ça qui est différent, c'est que j'ai ce côté qui a grandi vraiment avec beaucoup de goût, soit latin, mais spécialement asiatique. Pas que chinois, mais très poussé sur l'Asie. C'est ce qu'on mange à la maison.
Bien sûr.
Alors, même des petites choses simples, je vais penser à quelque chose, je vais penser peut-être à le marier avec le tofu, je veux le travailler d'une manière vraiment intéressante. Du coup, ces idées-là, je pense, pareil que pour les chefs qui ont venu avant moi, qui ont eu le leur, c'est que des choses que chaque personne peut apporter, parce que c'est par rapport à nos palais depuis qu'on est né. Qu'est-ce que nos parents nous faisaient à manger? Qu'est-ce qu'on mangeait quand on voyageait des fois? C'est quoi qui nous plaisait? Et du coup, c'est là où je pense que ça devient un peu plus identique. C'est quand on a le droit d'explorer ça. Et de dire, je vais créer une assiette basée sur ce souvenir-là ou ce voyage-là quand j'avais 15 ans avec ma mère, ou peu importe ce que c'est.
Et puis après, avec ce que vous trouvez aussi quand vous allez, donc, entre autres, à Chambéry.
Ah oui. Mais notamment, ça, ils me guident bien, les fournisseurs. Eux qui me disent et je suis leur ordre.
D'accord, d'accord. Et quand vous avez travaillé aux États-Unis, du coup, vous étiez dans quel type de restaurant? Vous étiez...
C'était un semi-gastro italien.
Okay.
C'était un chef sicilien qui s'appelait Don Curtis, qui avait travaillé avec Anthony Bourdain. Alors, il y a un grand chef à son temps, il avait 62 ans quand je l'ai rencontré.
C'était la cuisine italienne ou sicilienne ?
Sicilienne, ouais. Okay. Que des pâtes maison. Tout était fait maison. Hein. Tout. C'était incroyable comme premier endroit parce que c'était pas un gastro comme en France où on va immédiatement être dans une énorme brigade où on peut se perdre facilement. Mm-hmm. Moi, j'ai vraiment eu un pied dans le métier où j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que mon premier chef, il était très rigoureux, très dur. Il avait bossé en France, d'ailleurs. Il parlait un peu français.
Okay.
Mais en même temps, il... En fait, il était très méritocratique. Alors, quand il voyait que je venais tôt, je restais tard, que je voulais apprendre, que je venais tôt pour... il avait des cuisiniers, je me rappelle. Il y avait Alejandro, il y avait Felipe, tous les garçons qui tapaient les pâtes maison, mais ils faisaient tellement vite en plus. Du coup, je venais tôt pour apprendre ça. Mais ça, il a vraiment nourri. Il m'a fait augmenter. J'ai fini seconde cuisine là-bas, sous-chef, parce que c'était cette petite cuisine ouverte. On faisait souvent des complets très intimistes, mais tout fait maison. Mm-hmm. Et c'était juste une cuisine qui était incroyable. Pas compliquée, mais très soignée. Et en fait, ça m'a inspirée dès le début. Et je me retrouve dans ça où, sans chercher du chiche frichi, quand tout est fait maison, je sais pas, les épices sont toastées, passées à mortier, des petits détails comme ça.
C'est du très bon, du simple, quelque part.
Et on n'a pas besoin ajouter des choses qui ne servent à rien pour montrer quelque chose de quoi que ce soit. C'est, l'assiette, elle tient elle-même, au fait.
Bien sûr.
Et c'est vraiment la cuisine italienne aussi. Mmh. Elle est très basée sur le zéro déchet, sur le très peu de gaspillage. Mmh. C'est quelques produits. Il n'y a pas 50 000 sur l'assiette. Par contre, c'est des produits incroyables. Et voilà, il était très fort pour ça. Les pâtes maison, on en avait 9 différentes. Mmh. C'était magnifique, couleurs différentes, des raviolos, des raviolis, des tagliatelles, des tagliolini, on avait tout. Ah, c'était magnifique à voir. Ah, ouais. Pâte maison, pour la première endroit où on travaille, c'est quand même très beau comme formation.
Bien sûr. Et donc aujourd'hui, donc en ce moment, vous travaillez donc beaucoup, puisque vous préparez donc 2025, c'est ce que vous disiez.
Ouais.
Et quelles sont donc vos ambitions déjà pour 2025, enfin, vous ou bien ici au château, mais c'est vous visiblement qui avez un peu les rênes là-dessus entre la cuisine et la salle, effectivement. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place précisément ?
Alors on a fermé le mois de janvier pour juste avant qu'on réouvre justement. C'est pas de changer quoi que ce soit. Mais toutes les touches qu'on a envie de mettre en place, en fait, je veux quelque chose
qui roule super bien.
Oui, déjà opérationnellement, l'organisation, tout ce qui est back office, oui. Je pense que le concept de ce que je vise vraiment ici, c'est que je veux que ce soit un endroit où on mange quelque chose qui est au même temps rassurant, mais en même temps, il y a peut-être un peu de découverte. Et que surtout, c'est quelque chose qui est chaleureux. La cuisine, elle est sincère, le service, il est sincère. On se plie en quatre pour le client ici. Je le note d'ailleurs dans mon menu, dans le mot de la chef. C'est pour tout le monde. Je l'ai montré à toutes mes équipes avant de l'imprimer. Parce que la dernière partie, elle implique tout le monde. En mode, n'hésitez pas de nous solliciter pour quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un qui a envie de voir quelque chose et qu'on le sort de la cuisine, un produit, parce qu'ils sont curieux, ou quelqu'un veut rigoler un peu plus, alors que c'est un gastro, mais on peut. Quelqu'un veut un dîner plus intime, on fait un service qui est plus discret. Et on essaye de vraiment faire un endroit où, pour moi, chercher du luxe, c'est pas très intéressant. Je veux quelque chose qui est vraiment personnel. Enfin, Monsieur Belin, quand j'avais recherché le projet, c'était particulièrement votre. Et pour faire ça pour chaque client, ça demande énormément de travail.
Pour vous l'aider, lui, il est assez présent, hein, c'est ça.
Mais c'est que lui, il veut que sa philosophie, pour le château, c'est que c'est particulièrement vôtre. C'est qu'on se plie pour le client. C'est qu'on est là pour le client. On est là pour leur donner un moment qui. En fait, je veux pas faire quelque. Des fois, dans le luxe, on essaye de faire quelque chose trop belle pour que le client puisse se sentir proche de l'expérience ou de l'objet. Et je trouve que quand on se sent pas proche de quelque chose, ça touche pas la même partie du cerveau. On n'a pas cette nostalgie derrière. Même si peut-être la qualité d'un aspect était beaucoup mieux ou plus élevé ou plus exigeant, le sentiment de quand on est parti, moi je sais que quand je repense à mes souvenirs, mes favoris, les 4 ou 5 qui arrivent c'est les mêmes, le plus vite, c'était pas nécessairement les plus décorés ou les plus connus. C'était des endroits où tout était vraiment très très bien, mais en plus de ça, il y avait juste quelque chose de chaleureux, on a juste passé le meilleur moment possible, en fait. parce que l'énergie, elle était bonne, mm-hmm. elle était sincère, on était libre à être nous-mêmes. Et en tant que client qui paye, d'avoir une expérience qui était hyper spéciale, qui nous a, pour moi, clairement, à rester avec moi bien après que j'ai parti de leur porte. Mm-hmm. Alors que j'en ai fait, je ne sais pas combien des belles restaurants dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance, mais... Il y avait quelque chose qui est resté avec moi dans ces moments-là, dans la manière qu'on a traité quelqu'un qui était à table avec moi ou qu'on a accompagné ma grand-mère quand elle était handicapée. C'est des petites choses bêtes. Mmh. Et en plus de ça, c'était incroyable les assiettes. Le service était irréprochable. Mais c'était, je sais pas, c'était des gestes et toute une énergie qui nous a envoûtés dans une expérience. C'était plus que service, cuisine. C'était toute l'expérience ensemble. La cohésion entre les deux aussi, à quel point la salle connaissait la cuisine, nous parlait
bien sûr,
de...
Bien sûr.
Enfin, c'était un
tout. Oui, là, la personne qui nous servait, fort sympathique, très agréable et effectivement dynamique et rigolote quelque part.
Julia, alors.
Tout à fait, qui connaissait très très bien chaque plat et qui les avait goûtés, ça c'est important
tout
aussi.
Tout mangeait.
Et qui les appréciait beaucoup et qui à chaque fois... C'était assez amusant. Enfin, elle était presque comme une petite fille qui nous disait, en gros, vous allez voir comment vous allez vous régaler.
Et ouais, mais Julia, ils ont tous leur manière de le faire. Ils goûtent tout. Et comme ça, en fait, ils sont naturellement passionnés parce qu'ils ont toujours des cuillères dans la bouche, tout le monde. Et on parle de ça. Et Julia, j'adore la voir de loin, vous avez raison, parce qu'elle a vraiment ce charme qui est naturel. Avec son accent, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs ici. Et pour moi, c'était pas, déjà, c'était loin d'être problématique, c'était même un point
c'est
fort.
Bien,
ça ajoute pour moi un tout. Et en plus, en tant que chef américaine, je ne peux pas dénier ça. Je trouve que ça ajoute du personnalité. Et moi, quand je sens ça et je la vois de loin, des fois, je vais voir faire ça. Je suis en mode, oh, c'est juste comme ça. Mais elle est tellement passionnée. Mais je la laisse faire parce que je trouve qu'il y a.
C'est bien.
Elle présente bien, c'est une machine de guerre. Si vous la voyez le week-end, enfin quand on tourne complet, elle est comme les autres. Mais ce petit côté, on va dire, fofolle, ce petit côté charmante, authentique, par mode, je vous présente. Non, elle est vraiment en mode. Comme une gamine, comme vous avez dit. Il y a quelque chose de sincère là-dedans. Et pour moi, ça va au-delà d'un service qui est très luxueux, qui est comme ça, mais qui est peut-être. On se sent moins proche de ça. Moi, je trouve que quand elle parle de cette manière-là, tout le monde à table en mode bah, vas-y, on y va, quoi.
Non, tout à fait. Moi, je pense que, et on va finir là-dessus, ce qu'on retiendrait du coup de tout ce repas, effectivement, il y a donc les deux plats dont on a parlé, donc celui donc, à base de bœuf, hein, qui a été maturé, c'est ça ?
Six semaines,
oui. Qui effectivement donc, rappelle, je pense, vous un peu vos origines aussi, clairement, déjà au niveau du produit. Qui nous, du coup, nous a tout de suite transportés dans ces contrées-là, tout de suite, hein, immédiatement. Et après, effectivement, celui avec le crabe, pareil, moi, je n'ai pas tout de suite pensé forcément ni à l'Asie ni aux États-Unis, mais en tout cas, on a trouvé effectivement ce mélange avec, tout de suite, on a senti ce côté fusion avec la béchamel et tout, puis c'était juste très fin, délicieux et tout. Et effectivement, Julia, tout le long du repas, a couronné tout cela. C'est-à-dire qu'en effet, on est dans un cadre très agréable, très joli, un peu design et à la fois un peu rétro, puisqu'on est effectivement dans un château. Mais comme ce que vous disiez, le personnel quand même est extrêmement important. Et le fait d'avoir comme ça quelqu'un comme Julia, qui quelque part effectivement est assez étonnante, mais dans le bon sens du terme, eh bien, ça rend l'expérience totalement mémorable. Vous voyez, il y a ce qu'il y a dans l'assiette, il y a le cadre. Et puis, il y a les gens, effectivement, qui sont autour de nous. Et vous aussi, vous êtes formidables. Hein. Et on vous a repéré, bien évidemment, aussi, directement. Mais c'est vrai que, oui, on ne s'attendait pas à rencontrer cette Julia.
Et je trouve que c'est la cerise sur le gâteau.
Exactement. C'est effectivement, à chaque fois qu'elle venait, je disais à mon ami avec qui on a dîné ce soir, je lui dis, j'avais tout le temps le sourire. Dès qu'elle repartait, elle laissait cette bonne humeur, en fait.
Elle a une joie de vie, au fait, qui est complètement naturelle en elle. Et c'est là où je disais au début, pour faire un petit cercle 360, c'est que dans ce métier,
c'est vraiment une
ordres,
vraie transmission.
Etc., mais au fait, les ordres, on va dire, c'est plus de
oui,
mener.
C'est de la... Bien sûr, c'est
au lieu
de
manager, c'est très rare que je dois lâcher un halo. C'est très
sûr,
rare,
bien sûr.
Parce qu'avec des gens on
n'a
pas envie. Voilà.
Rester sur un rythme bien...
On les intègre. Chaque personne a le droit d'avoir leur personnalité, de s'exprimer d'une manière qui est sincère à eux. Et pas de leur enlever ce qui leur rend spéciaux. Et sans du tout non plus se lâcher complètement. Il y a quand même une rigueur qu'on maintient. Il y a certaines règles de base qui sont non négociables pour art de table, etc.
Bien sûr, bien sûr.
Mais moi, je sais que quand je sors en salle et que je vois que tout le monde est en train de picoler, manger, rigoler, et je vois que toute mon équipe de salle est à table avec eux, en train de vraiment... Moi, je ne suis pas en salle, mes cuisiniers ne sont pas en salle, Monsieur Pelin, non. Enfin, il n'y a aucun de nous qui peut faire ce boulot, c'est à eux. Et du coup, ben, c'est eux qui vont parler de ma cuisine, c'est eux qui vont ajouter leurs touches. Et moi, je sais que quand je sors en salle, pour moi, c'est un régal. J'adore les voir. J'adore. Ça me fait trop plaisir de voir comment chacun va trouver sa manière de parler d'un intitulé ou de parler d'un produit, de répondre à des questions. Ils sont tous très formés sur la carte, sur tous les aspects. Mais ils ont des points différents qu'ils vont mettre en valeur. Chacun, ça leur touche un peu différemment. Le client va toujours avoir le même assiette, mais le service, il y a de la personnalité dedans.
Bien sûr, bien sûr.
Et ça, je trouve que ça casse un peu ce côté qui est froid, des fois, qui est synonyme, des fois, avec les tables gastronomiques, où on a souvent peur de poser des questions ou de se mettre un peu plus à l'aise.
Non,
et ici, je veux que les gens sachent que c'est comme si vous venez manger dans une maison, chez un de nous, en fait.
Non, non, puis ce qui est intéressant, et puis on terminera là-dessus, on parlait tout à l'heure, effectivement, des plats à la fois très simples, authentiques, pas trop compliqués, comme les plats italiens, et les plats où il y a 15 ingrédients. Chez vous, je pense qu'on est sur un entre-deux, entre guillemets, et qui est effectivement, bah, quelque part, un bon équilibre, puisque moi, effectivement, quand on m'explique un plat où il y a 15 ingrédients différents, j'ai du mal à retenir. Hein. Je pense que tout le monde a du mal, concrètement. Et là, effectivement, à chaque fois que Julien nous faisait l'explication, à 95%, j'arrivais à retenir, vous voyez. Donc, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est effectivement ce qu'on ressent au niveau du palais et tout. Mais quand même, je trouve ça quand même assez sympa quand on arrive à peu près à percevoir déjà avant la dégustation, voilà, dans les grandes lignes, où est-ce qu'on va être amené. Et quand c'est trop compliqué, c'est trop. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est, on retient rien à la fin.
Oui, et l'assiette quand aussi, je la trouve.
Alors que là, effectivement. Voilà, il y a surtout effectivement ces deux plats que j'appelle les deux plats phares de ce menu de ce soir, mais les autres étaient très très bien aussi et n'étaient justement pas trop trop compliqués. Ils avaient assez de, voilà, ils avaient juste la bonne complexité.
Ouais, je pense que comme je travaille le zéro déchet depuis quelques années, en fait, ça force l'assiette à être concise. Mm-hmm. J'ai percuté que je me sens pas à l'aise avec une assiette ou une carte quand elle devient trop compliquée, parce qu'il y a tellement d'associations et de choses que j'ai envie de travailler, qu'en fait, moi, quand j'écris une carte, ça va faire ça, ça, ça. Et le lendemain, je vais commencer à dire ça, ça sert à rien, ça, pourquoi ce que j'ai mis. Et je retourne aux bases. Et quand on fait du zéro déchet, on va dire le turbo, il y a une fumée. Je retire le collagène des têtes pour faire une pipille ou peu importe. J'ai mon filet central. J'ai les arêtes qui vont partir dans une, je sais pas, une deuxième partie ou je sais pas quoi. J'ai toutes les parures qui vont partir dans une rillette ou une panne sole. J'ai toute la barde que je vais séparer de mon filet. Toutes ces choses-là, ça fait que peu importe la manière que je travaille sur l'assiette, elle reste concise. Enfin, j'essaie de mettre des intitulés. C'est le produit que je travaille, que vous allez retrouver dans plusieurs manières.
C'est le turbo, effectivement.
Voilà. Et un ou deux associations.
Ouais.
Et pas plus, au fait. C'est juste mon produit et ce que j'ai mis avec pour un peu... Parce que j'avais envie de le montrer dans cette manière-là.
Oui, bien sûr. Sous un angle, en fait.
Voilà.
Mais effectivement, mais le produit phare reste le turbo, du coup.
Voilà. Le produit phare, ça va toujours être l'intitulé. Ça va toujours être le produit que j'ai envie de mettre en valeur, qui sera ça. Et après, je mets peut-être, je ne sais pas, bain de Bouddha, cardamome noir. Mais on ne va pas savoir exactement comment ça va être travaillé spécifiquement. Et moi, je sais que mon palais, ça, c'est vraiment juste ma petite philosophie personnelle. Je sais que mon palais apprécie plus une assiette où tout est concis autour d'un produit. Je comprends mon assiette.
Bien sûr.
Même si visuellement, je comprends ce que j'ai devant moi. Je n'ai pas l'impression de chercher des astuces ou des indices sur ce que je vais manger. On la voit, on la comprend. Ça, c'est un côté qui est rassurant. Et peut-être, il y a un petit côté où on se dit, ah, peut-être c'est ça, l'ail noir, ou peut-être c'est ça.
Bien sûr.
Ben, un petit côté surprise, ou en bouche, peu importe. Mais moi, j'arrive jamais à mettre une assiette à la carte qui n'est pas concise. Souvent, avant que je mette la carte, la dernière chose que je fais, c'est enlever quelque chose, en fait. Parce que je me dis, mais au final, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que sur cette assiette-là, ça sert à rien. Je suis allée chercher loin dans ma tête, et en fait, au final, quand je le goûte juste comme ça, c'est vraiment tout ce qu'il me fallait. Et ça, à la limite, ça va le bousiller. Je préfère faire ça au mieux que je peux, de A à Z, fait maison, patata, que d'ajouter des condiments, des gels partout. Enfin, moi, je m'y perds, personnellement, mon palais s'y perd.
Non, tout à fait.
Et, voilà.
Très bien, très bien. Ouais. Bon, allez, on va terminer sur quoi ? Vous, quand vous n'êtes pas ici, est-ce que vous vous faites à manger chez vous ou bien est-ce que vous mangez assez ici et puis après vous êtes à la diète ?
C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Je goûte ma cuisine toute la journée, alors à la fin, je n'ai pas trop envie de manger. Ce que j'aime bien faire pour moi-même et ce que je fais de temps en temps pour eux quand j'ai le temps, c'est les nouilles, en fait. C'est dans un wok, je vais prendre des nouilles à base de riz la plupart du temps. Avec un petit curry, un petit laksa, un peu de sauce XO, ce que j'ai qui traîne un peu, j'ai toujours du curcuma, de la galanga, des choses comme ça. Je vais faire des petites nouilles
asiates. Rien que ça.
Je vais faire des petites nouilles asiates ou des ramen avec un petit demi-œuf dessus, fini avec des cébettes. Je fais des petits bols pour tout le monde, mais c'est... j'aimerais bien faire ça une fois par semaine. Et je le fais chez moi, parce que c'est une des choses que, pour moi, ça passe tout le temps. Et quand j'ai le temps, je ne l'ai que fait trois fois depuis que je suis là. Mais je vais en faire des bols pour tout le monde. Mmh. Et juste en mode, moi, je trouve que c'est ça, c'est comme un... C'est réconfortant, en fait, comme goût pour moi. Alors, je sais que des fois, quand je sens que j'ai le temps et tout le monde est un peu fatigué, j'aime bien faire ça, j'aime bien sortir le wok et poêler des pâtes pour tout le monde ou faire un petit truc où on se rejoint tous au-dessus, tout autour d'un petit perso. Et c'est la même chose que je fais chez moi. Mmh. Nouilles. Nouilles et pâtes. Je suis très pâtée, nouilles, ouais.
Donc, entre l'Asie et l'Italie.
Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
Avec un petit peu de sauce française, peut-être.
Peut-être, peut-être, oui, oui, oui.
Un peu de quoi ? De béchamel.
Non, alors, j'ai pas encore fait ça, c'est non, pas encore, mais j'essaie de réfléchir à ce que je mets. C'est vrai que pour le perso, quand c'est... On en a pas mal du perso un peu français pour tout le monde ici au château. Mais quand c'est moi qui fais, j'avoue que... Ah non, j'ai fait vraiment quelque chose qui me rappelle, comme j'ai dit, des pâtes de mon père. Mmh. Des nouilles à base de riz, juste poêlées, sautées, un peu frites avec des petits légumes. Mmh. Des choses qui traînent. En plus, on a des super produits. Alors nous, c'est un régal. Saute ça avec un peu d'huile dans un wok, avec un peu de mirin, un peu de soja, un peu de ci, un peu de ça. Pff, ça passe toujours crème. Mais c'est... Nous, tout le monde est sportif ici, alors c'est bien, on prend un peu des calories. Ça nous aide à tenir un gros service derrière. Et c'est sympa d'avoir ce moment où il y a tout le monde avec des petites baguettes autour, avec un bol, on est tous en train de rigoler, de parler. Je trouve que dans un gastro, de manger des nouilles asiatiques tous ensemble,
bien sûr.
Une heure avant le service, avant qu'on sait qu'on va servir tout le monde d'autre, quelque chose de complètement différent, je trouve qu'il y a un côté qui est un peu... mignon dans ça, au fait. C'est un peu...
Oui, on revient à vos origines, quelque part, aussi.
Des fois, il n'y a pas à chercher plus loin, en fait. Mm-hmm. Ils vont goûter la carte tout le temps, oui, mais il n'y a rien qui leur fait plus plaisir. Pareil que moi, quand je rentre chez moi, que juste un bon bol... Là, en plus, il fait froid. Juste un bon bol de nouilles, ou de ramen, ou udon. J'aime beaucoup faire aussi. Mais quelque chose... Des nouilles asiatiques, ça, c'est... Pour moi, c'est la base. Ouais.
Magnifique, magnifique. On va vous laisser. Allez vous reposer puisque demain, vous allez. C'est demain, hein ?
Ouais, demain matin, à l'île de Chambéry.
À quelle heure ?
Je pars d'ici à 7 heures avec les garçons.
Ça va, c'est très raisonnable.
Oui, oui, une petite heure de sommeil de plus qu'aujourd'hui. Ça va aller.
Bon, en tout cas, vous êtes en pleine forme et vous n'avez pas l'air du tout fatigué. Donc, vous pouvez continuer comme ça.
Ça, c'est le cuisine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Et puis, bravo pour votre cuisine. Et puis, on recommande à 1000%.
Merci beaucoup.
À bientôt. Merci.
À bientôt.